Les personnes qui composent cette table ronde, et j'en étais à toi, Anne. Je vais te présenter. Donc, Anne, tu as 32 ans, tu es docteur en théologie et en théorie politique, actuellement en post-doctorat en théologie politique à Oxford. Donc, tu es à Oxford, depuis ton écran, tu es à Oxford. Ta thèse terminée, il y a 2 ans, portait sur la demande des religions, et spécifiquement du christianisme, à participer à l'élaboration d'une éthique publique en démocratie libérale. À 20 ans, tu as commencé tes études de théologie et tu es entrée en féminisme. Tu nous expliqueras pourquoi. Et donc, toi aussi, tu as cofondé, entre autres avec Lucie Charquet, la collective Oh My Gorgeous. Et Oh My Gorgeous, c'est un groupe de femmes réunies autour du projet de participer au renouvellement des communautés catholiques en initiant des projets féministes. Voilà. On voit le paysage, voilà. Donc, ma première question que je vous pose, qu'est-ce que ça veut dire pour chacune d'entre vous d'être féministe dans l'Église catholique? De quoi avez-vous hérité et qu'est-ce qui vous a fait... de quoi avez-vous hérité et ce que vous avez... j'ai mal écrit ma phrase, donc de quoi avez-vous hérité? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes entrée en féministe? Et ce qui fait que vous vous êtes engagée. Donc je vais commencer par Monique. La quatrième? Mais Lucie, j'ai parlé d'elle déjà, non? Oui, j'ai parlé de Lucie Charquet qui est psychologue clinicienne à Lille. Et je disais que c'était la seule que je vous voyais. Ça va? Alors Lucie, elle a 33 ans. Voilà. Ça va? Vous avez... Ah, ok, parce qu'elle devrait apparaître, en fait, peut-être qu'il faudrait mettre Lucie et Anne en même temps dans l'affichage, mais bon. Écoutez, c'est pas grave, elles vont... Oui. Ah, merci. Okay. Donc, Monique, à toi.
Alors, de quoi ai-je hérité? Je ne me suis jamais considérée tellement comme féministe. Mais d'abord, j'ai 4 filles qui m'ont dit « Mais tu ne peux pas dire ça, maman. Du moment que tu es pour l'égalité homme-femme dans la société, tu es féministe. » Moi, c'est peut-être une évidence pour moi. Je n'avais pas besoin de...
Plus fort?
Oui. Comme ça, c'est mieux? Ok. Donc pour moi, l'égalité homme-femme était une évidence. Je ne me sentais pas particulièrement féministe. Et c'est certainement mes 4 filles qui ont entre 38 et 28 ans, qui m'ont beaucoup poussé pour dire « Maman, ça ne va pas de soi ». Moi, j'ai eu une éducation où filles et garçons étaient élevés de façon pareille pour faire les mêmes études et pour avoir les mêmes responsabilités. Et je n'ai jamais été confrontée à une discrimination quelconque en tant que femme. En tout cas, pas avant d'arriver chez les évêques. Mais comme je suis arrivée là-bas, j'étais avocate, et donc avocate au barreau de Paris, aucun problème en tant que femme. C'est parce que j'ai renoncé à une carrière et qu'à ce moment, pour élever mes enfants, qu'à ce moment-là, j'ai fait des études de théologie et que, ne me voyant pas retourner au barreau avec toutes les contraintes que cela implique, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire quelque chose d'utile, je me rends utile dans l'Église. Donc, j'y étais pas pour faire carrière et... Bien sûr, je voyais des choses bizarres. Mais dans un premier temps, parce qu'avant d'être directrice du service famille et société, j'ai travaillé déjà un certain nombre d'années bénévolement comme chargée de mission pour écrire. J'ai beaucoup fait la plume des évêques. C'est comme si vous visitez un pays étranger. Vous dites, tiens, c'est bizarre. Mais vous respectez parce que vous ne vous sentez pas chez vous. Et c'est peut-être ça qui, avec la relecture, je me dis, mais tant, je considérais que ce n'était pas chez moi, l'Église, alors que l'Église, c'est aussi chez moi. Donc, je suis devenue féministe à la fois sous l'influence de mes filles, qui m'ont bien fait comprendre que si moi, j'ai eu cette facilité dans la vie, toutes les femmes n'ont pas cette facilité et que la discrimination, il y en a toujours. Et j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir chez les évêques. J'ai eu d'excellentes relations avec les personnes. Mais avec la relecture après, c'est finalement cette très bonne relation interpersonnelle qu'on peut avoir, et dans lequel le fait d'être femme n'est vraiment pas un handicap, m'a empêché de regarder avec un œil suffisamment critique le fonctionnement de l'institution. Et c'est là où il y aurait des choses à dire, en fait, parce que c'est pas les hommes, c'est pas, c'est, mais c'est le système qui fait que la voix d'une femme n'a jamais le poids la voix d'un prêtre, ou que la place que les femmes, ou le rôle que les femmes peuvent y jouer dépend entièrement du bon vouloir des hommes. Et ce sont des situations qui ne sont pas normales aujourd'hui.
Mathilde, est-ce que tu peux nous dire comment... oui, je vais te passer mon micro, comme tu veux. Voilà. Comment es-tu entrée en féminisme ?
Non, ça ne marche pas.
Si, tu parles, vas-y.
Si, ça marche ? Non ? Alors, là, vous m'entendez bien ?
Oui.
Ok. Alors moi, j'ai toujours été catholique et j'ai toujours été féministe. Mais les deux étaient des sphères assez séparées. Je pense que ma mère serait pas du tout d'accord pour que je vous dise ça, mais j'ai été élevée par une mère féministe, une mère féministe deuxième vague, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire très concentrée sur la place des femmes dans la sphère publique, sur les acquis des années 60-70. Donc j'ai toujours été élevée dans l'idée qu'il fallait faire des bonnes études pour travailler et être indépendante. Et puis bien sûr, utiliser les moyens mis à ma disposition pour ne pas faire des enfants quand ça m'empêcherait d'avoir une carrière. Et puis bon, voilà, j'étais assez sensible dans mon enfance quand même aux stéréotypes de genre. Ce qu'on appelle comme ça maintenant, donc les filles c'est comme si c'est comme ça, les garçons c'est comme si c'est comme ça. Déjà j'aimais pas trop qu'on me limite à des définitions précises, parce que j'étais une fille. Mais bon, j'étais élevée dans une famille de filles, il y avait que ma sœur et moi, et c'était entendu qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et puis parallèlement, j'allais à l'église et... oui, j'étais pas trop d'accord avec le fait que il y avait des choses qui nous étaient interdites simplement parce qu'on était des filles ou des femmes. J'ai jamais trop compris. J'ai jamais trouvé de raison théologique valable sur la raison pour laquelle les femmes seraient exclues du sacerdoce. Quand j'étais petite, dans ma paroisse, on ne pouvait pas servir la messe parce qu'on était des filles. Il n'y avait que des garçons. À l'époque, les servantes d'assemblée, ça n'existait pas. Le curé, un jour, a changé d'avis. J'étais en troisième, je m'en souviens très bien, parce que je rêvais de servir la messe depuis toute petite. Donc je me suis précipitée et puis j'ai servi la messe entre ma troisième et ma cagne. Ça se passait très bien. J'ai commencé à aller à la messe le dimanche soir parce que je n'aimais pas trop me lever le matin. Donc je m'excuse d'ailleurs parce que je suis pas au meilleur de ma forme là. Il est un peu tôt pour moi. Et puis alors là du coup les prêtres étaient super reconnaissants qu'il y ait quelqu'un pour servir la messe, et le fait qu'on soit des filles ou pas ça n'avait aucune importance. J'ai continué, j'ai fait des études dans une école laïque, voire laïcarde et très anticléricale. Et donc je me suis formée aussi au féminisme universitaire, aux catégories féministes qui servent pour l'analyse des sciences humaines. Et puis je continuais à aller à l'aumônerie, et puis c'était un autre monde, hein, clairement. Ça, ils en avaient jamais entendu parler, mais bon, le féminisme touchait, enfin ça touchait, disons, l'organisation politique de l'Église. Mais j'étais pas au point d'ailleurs de m'engager vraiment. Hein. Ma spiritualité s'en trouvait pas affectée en fait. Et puis en 2019, j'ai regardé ce documentaire dont peut-être certains se souviennent sur Arte, Religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église. Et là, ça a fait comme une déflagration. Je me suis rendu compte que. La spiritualité et le féminisme se sont rejoints, et je me suis rendu compte qu'en fait, sur un plan spirituel aussi, le comment dire, ce qui nous est enseigné peut servir à nous asservir en tant que femmes. Et puis, j'ai fait vraiment un lien. Je me suis dit, ça, je vois. Enfin, la pédocriminalité, ça ne correspondait pas à l'expérience que j'avais de l'Église. Je trouvais ça horrible, mais ça ne me touchait pas intimement. Alors que là, ben, je me suis dit, mais en fait, ça, je vois très, très bien comment ça peut arriver. Ça correspond à mon expérience quotidienne de l'Église. C'est. En fait, tout le discours dont Monique a parlé, qui est produit par des hommes à propos de la femme, il faut bien noter le singulier. C'est déjà une façon de nous considérer comme des objets de discours. Et je dis pas que tous les prêtres, tous les hommes sont prêts, enfin passent à l'acte après de l'abus sexuel, mais il y a quelque chose qui, voilà, on est déjà considéré comme des objets au quotidien, et donc de là à être considéré comme des objets sexuels, il y a un pas qui est favorisé par toute la culture dans laquelle on baigne. Et là, bah, je ne sais pas si j'en parle maintenant du podcast. Donc du coup, je me suis dit, bah, en tant que femme, il faut que je fasse quelque chose pour agir à la racine de ce continuum, en fait. Et mon idée, ça a été de redonner aux femmes leur place de sujet de discours, de sujet d'une vie spirituelle. Donc j'ai créé un podcast, pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est qu'un podcast, c'est comme une émission de radio, sauf que c'est autoproduit et c'est uniquement diffusé sur Internet. Et à l'époque, en 2019, ça commençait à se démocratiser, il y avait une appli gratuite qui était sortie pour faire un podcast de son téléphone. Et moi j'aimais bien les podcasts, j'en écoutais beaucoup, et du coup je me suis dit, et il n'y avait pas de podcast catho à l'époque, enfin pas beaucoup. Et donc je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire, un podcast. Donc je suis allée voir, j'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé l'appli, je suis allée voir mes copines, ma voisine de bureau, ma copine de maison Magis avec qui je faisais un parcours, mon accompagnatrice spirituelle, et je leur ai dit, racontez-moi votre vie spirituelle. Et elles ont toutes joué le jeu avec vraiment une confiance admirable, et ben voilà, j'ai mis ça en ligne et j'ai eu l'impression de contribuer un petit peu quand même à redonner, à ma modeste mesure, redonner une place de sujet aux femmes. Et puis en 2021, y a une jeune femme qui m'a contactée en me disant... j'aime beaucoup ton podcast et moi, j'organise des cercles de femmes dans ma paroisse. On s'est parlé, on a trouvé qu'on avait des aspirations communes, on a eu envie d'organiser une retraite féministe dans un monastère de femmes. Et donc, on a créé une association et depuis, on propose des retraites en non-mixité féminine. Et des cercles de parole pour les femmes tous les mois, en s'inspirant en fait des pédagogies des mouvements féministes laïques et du développement personnel aussi. Mais ça, je pourrais vous en parler un peu plus après.
Merci Mathilde. Donc maintenant, je vais passer la parole à Lucie Charquet. Si vous m'entendez, Lucie, oui. Prête à prendre la parole. Donc Lucie, est-ce que je peux te demander quelle a été ta démarche, enfin est-ce que tu es féministe, alors féministe peut-être d'origine, mais catholique et féministe, comment ça se conjugue et depuis quand chez toi? Ça va être. Il faut un tout petit peu de patience, c'est un peu compliqué tout ça, mais on va y arriver. On va rétablir le son. Est-ce que... Est-ce que je donne la parole à Anne? Est-ce que vous pouvez parler, Lucie? Non, ça ne marche pas. Non. Non, ça ne marche pas, Lucie. Toujours pas.
Est-ce que Anne-Camille peut parler?
Oui. Voilà. Très bien. Anne, est-ce que tu peux parler pour voir si non, ça ne marche pas non plus. C'est ici que ça.
Ça va pas. Elle a parlé, mais ça fonctionne pas.
Est-ce que j'ai pas coupé tout? Enfin, je sais pas. Est-ce que mon son, le son de mon ordi est en route?
Anne, tu m'entends toi encore?
Absolument, très bien.
Ah, c'est ça, on est d'accord.
Lucie, ça marche. C'est bon? Ça marche, Lucie, vous pouvez parler.
Je peux parler?
Oui.
Ok, super, ça marche. Bon, merveilleux. Désolée, merci d'accepter ces complexités numériques pour qu'on puisse être tous ensemble et vivre cette table ronde. C'est chouette d'être là malgré les problèmes techniques.
Merci à vous.
Du coup, je dirais que pour moi, être féministe et catholique aujourd'hui, dans mon expérience, c'est me laisser porter par les histoires de vie des femmes. Et à travers ces histoires de vie et à travers les expériences d'inégalité qui s'y déclinent, de me laisser déranger par la question du pouvoir. Donc c'est avoir pour point de départ l'expérience des femmes dans l'Église, et que ce point de départ m'amène et nous amène, je pense, au sein de My Goddess, à nous poser la question des rapports de pouvoir dans l'Église. Dans ces rapports de pouvoir structurent notre relation à la vie paroissiale, à l'Église de manière plus générale, au texte de la Bible, à la théologie, à la liturgie. Et du coup, pour moi, être féministe en Église, c'est pas juste lutter quelque part pour davantage de droits des femmes, et je pense que c'est la position de toutes les personnes qui sont au sein de My Goddess, c'est pas forcément de demander des formes de rectification pour les femmes, mais c'est de se laisser déranger par la question du pouvoir et par ce qu'elle emmène de plus général. Donc on est habité, nous, par les questions, par exemple, de parce qu'on est, voilà, on parle là de femmes et d'hommes, mais en fait, il y a des femmes et des hommes, ça a été dit un peu avant. Et du coup, ce qui me questionne, c'est les rapports de pouvoir, par exemple, dans le salariat, dans l'Église. Le fait que les contrats de 3 ans qui sont proposés par les diocèses sont des contrats mal rémunérés, effectivement, de manière générale, proposés à des femmes, précaires, parce que tous les 3 ans, c'est pas fantastique. Vous avez l'immense chance de voir mon fils de 6 ans. On s'était organisé un petit peu différemment pour que les choses soient... Voilà, pour que je sois un peu disponible, cette même surprise. Du coup, je lui ai promis monts et merveilles pour qu'on arrive à gérer ces 3 heures, mais on va voir comment ça se passe. Du coup, voilà, donc on se laisse déranger par des questions de pouvoir qui se disent dans les rapports entre hommes et femmes, mais qui se disent aussi dans une forme, on trouve, de violence à l'égard des personnes lesbiennes et gays et transgenres, par des rapports de pouvoir qui se disent dans la manière qu'a l'Église de porter la question du salariat, par les rapports de pouvoir qui se disent dans la manière qu'a l'Église de porter la question, par exemple, des prêtres africains, des paroisses noires et des paroisses avec une majorité de paroissiens et paroissiennes, ou une majorité de paroissiens et paroissiennes blanches, dans les rapports qu'a l'Église avec les églises d'autres pays, avec les religieux et les religieuses qu'on importe d'autres pays pour porter notre vie paroissiale ici. Donc, en gros, voilà, je dirais que mon féminisme, il est centré sur la question des rapports de pouvoir. Et ce qui est important, je crois, dans ce que j'essaie de dire, c'est que du coup, c'est un féminisme qui a pour fondement l'idée que nous pouvons être collectivement plus fidèles à l'Évangile et au message du Christ. Il ne s'agit pas seulement que les femmes soient plus confortables, même si c'est très important, bien sûr, mais il s'agit que nous puissions être... plus profondément enracinés dans ce qui nous semble être le vrai message de libération et de salut que nous apporte le christianisme. Et du coup, c'est ce féminisme, s'il se déploie, il se déploie au bénéfice des femmes, il se déploie au bénéfice des chrétiens, chrétiennes, et puis d'ailleurs de toutes les personnes humaines LGBTI, il se déploie au bénéfice des hommes, il se déploie à notre bénéfice collectif pour vivre vraiment profondément enraciné dans l'Évangile. Et donc ça, c'est qu'est-ce que c'est être féministe pour moi dans l'Église? Et comment j'en suis arrivée là? C'est une question qui est très vaste. Moi, qui suis psychologue, je trouvais que ça résonnait dans plein de... Enfin, voilà, c'est très profond, quoi. Alors, je ne saurais pas forcément y répondre de manière exhaustive, mais je dirais que j'ai hérité, je pense familialement et dans ma biographie personnelle, d'ambiguïté, avec des ambiguïtés avec des dimensions libératrices et des dimensions contraignantes. Moi, je viens d'une famille multiculturelle. Ma mère est libanaise, mon père est anglais d'origine irlandaise. Donc, c'est des catholicismes. Maman est maronite, papa est donc catholique d'un pays dans lequel le catholicisme est minoritaire. C'est des catholicismes plutôt minoritaires, un peu différents peut-être des catholicismes majoritaires français. Donc, dans une famille multiculturelle, ils se sont rencontrés donc à l'Arche, dans les communautés de l'Arche, pour les personnes avec un handicap mental. Donc, tout ça, ça semble très... comme très atypique, un peu... effectivement, il y avait dans notre famille et puis dans la vie communautaire à large des grandes marges de créativité, de différence, de multiculturalité. Et en même temps, il y avait, et on l'a vu de manière absolument tragique ces dernières années, mais des grandes ambiguïtés sur la question du pouvoir. Des ambiguïtés sur... voilà, et donc aussi, quelque part, la perpétuation de manière discrète de rôles qu'on donnait aux femmes et de rôles qu'on donnait aux hommes. Donc moi, quand j'ai grandi, c'était très clair que les directeurs de communauté étaient plutôt, c'était des rôles qui étaient proposés aux hommes. D'ailleurs, tout homme qui était père de famille, on lui proposait le poste de directeur de communauté, comme si le directeur est forcément une sorte de père secondaire, ou de femme sans enfant. Donc ça, c'était voilà, l'évolution. Mais en tout cas, moi, dans ma vie à l'Arche, qui était, voilà, j'ai pas vu de femme avec des enfants directrices de communauté. La question du salariat, quand j'ai grandi, j'avais des amis qui étaient assistants à l'Arche, et c'est une question compliquée, la question du salariat, avec les rapports de pouvoir qu'elle porte. Et puis, dans ma propre famille, il y avait des choses qu'on n'avait pas su se dire, je pense, sur l'histoire de mes parents, sur mon histoire à moi, et sur des choses pas simples qui les avaient traversées. Et il y avait clairement le renouvellement d'un certain silence sur des questions fondamentales liées à l'expérience des femmes. Et quand je posais des questions, il n'y avait pas forcément de réponse tout à fait juste. Moi, je me rappelle, alors c'est des choses moins intimes, mais je me rappelle avoir demandé à mon père, qui est quelqu'un par ailleurs d'extrêmement intelligent et plutôt un libre penseur, mais pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de femme prêtre? Et il m'avait dit, il y a d'excellentes raisons théologiques, Lucie, tu auras l'occasion de les lire. Et je me suis dit, bah, super, il y a d'excellentes raisons théologiques, j'aurai l'occasion de les lire, fantastique, quoi. Et voilà, ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais moi, j'ai grandi avec deux petits frères et effectivement, il y avait des choses qu'on a pu se nommer collectivement un peu plus tard, mais beaucoup de choses, voilà. Des choses faciles à dire, des choses plus lourdes, qui étaient de l'ordre d'une perpétuation de dynamique un peu complexe que j'ai détricotée en devenant féministe. Et donc voilà, ce féminisme est arrivé plutôt autour de mes 25 ans, donc j'étais déjà mariée à un homme, donc j'étais déjà mariée avec Noé, avec qui je suis toujours mariée, mon mari, et j'avais déjà pris un, voilà, j'avais déjà pris un, ma vie était déjà marquée par mon enracinement catholique, et du coup ça a bouleversé plein de choses, il a fallu se laisser déranger par tout ce féminisme et toutes les questions qui venaient avec. Voilà, vous voyez mon fils à côté qui tient le coup.
Merci
et
beaucoup.
Je laisse la parole à Anne.
Merci beaucoup Lucie. Donc, je vais maintenant passer la parole à Anne Liard. Anne, donc toi, comment... Alors, on va te mettre un peu plus grande sur l'écran. Voilà, donc je disais tout à l'heure que tu m'as dit, hein, que tu as commencé des études de théologie, tu es entrée en féminisme. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir? Est-ce que c'était le déclencheur ou pas vraiment?
Non, pas tout à fait. Et c'était pas exactement concomitant. Pour moi, le féminisme n'était pas du tout une évidence. J'ai grandi dans une famille binationale franco-hongroise. Donc ma mère est arrivée à 25 ans en France ne parlant pas le français, mais j'ai grandi à Versailles. Donc j'ai vu un catholicisme assez conservateur avec cette répartition des rôles féminins et masculins qui était assez nette et que je trouvais étonnant quand j'étais enfant, mais Voilà. Mes parents n'avaient pas l'air d'être très dérangés par ça, donc je me disais que si eux n'étaient pas dérangés, c'est qu'il n'y avait pas de raison. Et en même temps, ma mère a grandi à l'école, donc bien marquée par le communisme, dans lequel les garçons et les filles étaient éduqués de manière très égalitaire. Donc ils avaient des cours de mécanique automobile comme de couture. Et en même temps, le catholicisme dans lequel elle a grandi est celui d'une opposition à un État soviétique. Et donc, c'est assez marqué par l'idée que l'éducation communiste égalitaire, a priori, est plutôt nocive, puisqu'elle a cherché aussi à détruire le christianisme dans les États d'Europe centrale et de l'Est. Donc, c'est un peu un marqueur quand même, mais... Voilà, enfant, adolescente, j'en avais pas conscience et j'en ai pris conscience à partir de mes 20 ans, à la fois par mes études de sciences politiques, mais aussi par la théologie. Et la théologie, j'y suis tombée de manière assez, par hasard, en faisant mes études de sciences politiques. Et donc, j'ai mené ces études en parallèle. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que les croyances dont j'avais hérité, pardon, avaient une histoire, avaient aussi une rationalité et elles avaient aussi des effets politiques et sociaux. Important. Donc je me suis intéressée spécifiquement aux croyances du christianisme, puisque à la fois j'ai été socialisée dedans, mais aussi parce que j'utilise encore les textes bibliques pour vivre ma foi. Et en fait, en parallèle de ça, au cours de mes études, à la fois en sciences politiques et en théologie, et pendant mon doctorat, j'ai fait l'expérience de violences sexistes et sexuelles, de harcèlement moral et sexuel, qui ont une très forte incidence. Et donc, j'ai cherché à comprendre ce qui m'arrivait. Et donc, je me suis tournée vers le féminisme et les outils du genre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, parce que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'ai réalisé qu'en fait, mon expérience individuelle, elle était en réalité imbriquée dans un système d'injustice et de violence beaucoup plus large, qui était structuré par ce qu'on appelle le patriarcat. Donc c'est en faisant cette expérience personnelle et intimement violente que j'ai pris conscience de quelque chose qui me dépassait vraiment. Et j'ai à ce moment-là aussi réalisé combien l'univers de sens que m'avait transmis le catholicisme participait à cette situation d'oppression structurelle, à la fois par les représentations qu'elle véhiculait, mais aussi par l'organisation, la vitrine que montrait l'Église sur les femmes, et finalement pas que. En fait, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas que les femmes qui étaient oppressées par l'Église et par les représentations qu'elle véhiculait. Pendant une année de recherche, je suis partie aux États-Unis, et donc là, j'ai découvert les théologies féministes et queer, qui tentent justement de défaire les idées et les représentations éculées qui sont liées à ces héritages patriarcaux au sein du christianisme et qui cherche finalement à retrouver quelque chose de profond dans notre relation à Dieu. Et comment est-ce que cela change aussi notre vision à la fois de la foi, mais aussi de l'Église. Et j'ai été assez stupéfaite parce que là, j'avais déjà 26 ans et j'avais commencé des études de théologie à 20 ans chez les jésuites à Paris, et donc qui se targuait quand même d'être... une des facultés les plus progressistes de France. Et j'étais stupéfaite de me dire, mais en fait, c'était en 2011-12, j'avais jamais entendu parler des théologiennes féministes et queer. Donc j'ai découvert ça aux États-Unis et j'ai réalisé qu'il y avait en fait très peu de traductions en français de ces ouvrages qui... alors on date le début des théologiens féministes aux années 20, même si... Il y avait déjà des mouvements féministes. Et l'essor a commencé à partir des années 50. Donc ça date quand même. Et pour autant, très très peu de choses ont été traduites en français, même encore aujourd'hui en 2023. Voilà. Et cette théologienne, elle montre qu'un des plus grands impensés de lecture elle-même, c'est son idéologie sexiste et misogyne qui structure autant son imaginaire que sa structure institutionnelle et l'organisation de son pouvoir. Voilà. Donc sur... les évidences de l'Église dont j'ai hérité et qu'elle remette parmi ces théologiennes féministes et queer. Donc la première, c'est qu'on a hérité d'une Église où le pouvoir est le monopole des hommes, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de faire la loi dans l'Église, D'ailleurs, il aurait été ainsi possible de créer une société exclusivement d'hommes. Et il verrouille cette idée à partir d'une origine sacrée. Donc on justifie le fait que ce sont eux qui ont le pouvoir de créer la loi et d'être les représentants d'une origine et une volonté sacrée. La deuxième évidence, c'est qu'on a hérité d'une église où les femmes sont des fantômes, puisqu'elles sont constituées comme un danger. Donc je prends juste un exemple, c'est celui du...
Patience, hein, ça revient dans les trois secondes.
Canon qui institue s'exclusivement mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles. Donc on cite même pas les femmes, c'est pour ça que je parle de fantômes, et on les constitue comme des dangers puisque ce sont elles qui mettent en danger potentiellement les hommes au sein de l'Église. Donc ça c'est la deuxième évidence, enfin le deuxième héritage, et le troisième c'est une... On a hérité également de représentations des femmes qui sont dévalorisantes et méprisantes. Donc là, il y a vraiment une flopée d'exemples que je pourrais donner. Je vais en citer seulement une, qui est celle dans la Somme théologique de Thomas d'Aquin. À la question 92, il reprend Aristote et il décrit comment les femmes sont intrinsèquement inférieures, qu'elles sont produites biologiquement comme des êtres humains incomplets, ce qui signifie que les femmes ne peuvent jamais représenter l'humanité normative, c'est-à-dire celle qui est standard, puisqu'elles ont quelque chose de défectueux et de manqué. Donc, et comme c'est un des pères de l'Église et qu'il est sur le, enfin, c'est sur lequel on s'appuie énormément dans la pensée, dans la tradition de l'Église, c'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer comment les femmes, enfin, on véhicule une représentation extrêmement dépréciative des femmes et que les quelques textes des papes des dernières années qui essayent d'intégrer le fait qu'il y a des mouvements féministes dans l'Église qui contestent cette vision extrêmement péjorative des femmes, non seulement ne suffisent pas, mais en plus de ça, elles reproduisent d'une manière assez perverse ce type de représentation-là. Donc en créant notre collectif Oh My Goddess en 2019, donc la même année que la création du podcast de Mathilde, nous avons voulu participer à notre mesure à ce mouvement de sortie du christianisme, de cette structure patriarcale. Donc on a, l'idée, c'était vraiment d'essayer de donner la parole à des personnes qui vivent la même chose que nous et qui essayent de vivre leur foi comme un mouvement, comme une force d'émancipation dans leur vie. Et que ça implique aussi, en fait, une émancipation au sein même de l'institution qui nous a transmis cette foi-là. Voilà, et donc on l'a fait par différents projets, mais je pense qu'on va vous en parler dans les prochaines questions.
Oui, on y reviendra. Donc là, on a entamé la question « Comment sortir des évidences, sortir du silence ?» Monique, qu'est-ce que tu répondrais à cette question ?
Je pense déjà, quand on écoute... Donc, elles ont tous la trentaine et moi, j'ai quand même 66. La différence, c'est cette prise en considération de l'enjeu du pouvoir qu'on n'a peut-être pas suffisamment vu avant. Et c'est venu aussi avec l'histoire des abus sexuels. Parce que dans sa lettre au peuple de Dieu de 2018, le pape François fait à ce moment-là ce lien abus de pouvoir, abus de conscience, abus sexuels. Ça veut dire que tous ces abus sexuels ont d'abord comme terreau les abus de pouvoir et de conscience. Ça veut dire que pour les combattre, c'est tout le système, c'est toute la façon dont le pouvoir est exercé dans l'Église qu'il faut revoir, parce qu'au fond, le pouvoir est exercé dans l'Église de façon assez monarchique. Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de voie de recours, il n'y a pas de barrière, ni rien. Donc, c'est là où, je veux dire, je pense que la prise de conscience qui se fait aujourd'hui, c'est que les structures patriarcales, qui ont été celles de la société, mais dont la société est en train de s'émanciper petit à petit, je ne dis pas que c'est complètement fait, mais bon, la société a fait un bout de chemin, l'Église doit encore en prendre conscience. Alors, un rapport de la SIAZ montre très bien la dimension systémique des abus, là où vient se loger dans les lieux où le pouvoir s'exerce, on voit bien qu'il y a un peu de mal à, à accepter cela. Et ça vient aussi du fait que l'Église ne pense pas le pouvoir. Elle dit toujours le pouvoir dans l'Église, c'est un service. Oui, c'est ce que le Christ a demandé. Quand il a dit, entre vous, il ne doit pas en être ainsi, hein, et on ne doit pas exercer le pouvoir en Église comme on l'exerce dans le monde. Mais à force de dire, c'est un service, elle a oublié de le penser, le pouvoir. Elle ne pense pas le rapport de pouvoir. Et c'est cette... ni la fragilité des hommes et des femmes au sein de l'Église. Et il y a là un terreau qui explique beaucoup de déviations. Il faudra déjà prendre conscience de cela pour pouvoir évoluer, faire autre chose. Mais c'est une remise en cause complète du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc ça prendra du temps et ça rencontrera forcément des résistances.
Je peux réagir à ce que tu disais, Monique, et à ce que disaient Lucie et Anne. Je voulais justement rebondir sur cette histoire de pouvoir qui est complètement invisible dans l'Église. Et donc, on se prive aussi d'outils d'analyse qui viennent des sciences humaines, notamment, parce qu'on ne veut pas... On ne veut pas en fait avouer qu'il y a du pouvoir. Dans la question du sacerdoce des femmes, il y a toujours un peu cet argument. Pourquoi les femmes voudraient-elles être prêtres? Ça représente, c'est pas un pouvoir d'être prêtre. C'est un service. On se met au service de l'Assemblée. C'est une vocation, c'est un appel. C'est pas un pouvoir. Et quand on essaye d'argumenter sur le pouvoir symbolique, sur l'autorité, sur le pouvoir qu'accorde le fait d'être ministre d'un sacrement, c'est on se heurte à un mur blanc parce que c'est absolument pas pensé en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, bon, ça nous tient à cœur à des femmes et un Dieu, hein, de si les prêtres, si l'institution était plus ouverte à ce qui se passe dans les sciences humaines en particulier, hein, dans le monde laïque, ça irait peut-être un petit peu mieux quand même, si on était un peu formé en sociologie, en histoire, en philo. Anne pourra en sciences politiques, Anne pourrait sûrement avoir des choses à dire beaucoup plus intéressantes que moi là-dessus. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, que m'inspirent nos échanges, c'est que on parle de féminisme laïque, de féminisme séculier, et je voudrais surtout pas qu'on ait l'impression que tout va bien dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, que ça y est, le féminisme a changé le monde, et que ce qu'on devrait faire, c'est amener l'Église vers ce qu'est la société actuelle. Quand on parle de patriarcat, ça existe aussi dans la société actuelle. Et même s'il y a eu des avancées sur le plan politique, sur le plan social, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il reste des inégalités financières, des inégalités sociales et aussi des inégalités... De représentation, en fait. Et ce sur quoi je voulais rebondir, c'est cette idée de Thomas d'Aquin sur le fait que la femme, enfin, les femmes sont un peu un humain manqué et que le point de référence, ce sont les hommes, bah, c'est quelque chose qui existe aussi dans la société. Moi, j'ai été frappée à un moment... J'ai fait des études en prépa, de la philo, de l'histoire. Et un jour, je me suis rendu compte que le sujet pensant par défaut, c'est un homme. C'est un homme et ça pose pas de problème. Enfin, et ce qu'on nous apprend à nous, les filles, les femmes, c'est à devenir des hommes comme les autres. À surtout pas... Surtout pas faire entrer dans le champ de la pensée, dans le champ de la réflexion, dans le champ de la science, nos vies, nos corps, nos expériences de femmes. Il y a, jusqu'à présent, il y avait très peu de philosophes qui écrivaient sur la maternité, d'un point de vue féminin, je veux dire. Il y a très peu de... là, il y a des infos qui circulent là, ces derniers temps. La première ceinture de sécurité testée sur une femme, ça date d'il y a 6 mois. Il y a plein d'études maintenant sur la médecine, sur le fait que les sujets de référence qui sont pris pour tester les médicaments, décrire les symptômes types d'une maladie, c'est les hommes. L'histoire de si vous avez mal au bras gauche, vous êtes en train de faire un infarctus. Alors messieurs, si vous avez mal au bras gauche, vous êtes en train de faire un infarctus. Mesdames, par contre, vous risquez plus d'avoir mal à la tête si vous faites un infarctus. Et ça, c'est la cause de mauvais diagnostics qui entraînent une surmortalité des femmes, et c'est le cas dans toutes les maladies. Et je ne vous parle pas, bien sûr, de l'endométriose, des effets secondaires de la pilule, alors qu'on a sorti je ne sais pas combien de médicaments contre les troubles érectiles. Ils sont quand même un peu moins douloureux que l'endométriose, hein, permettez-moi de... Je ne veux pas parler à la place des hommes, mais enfin. Donc, tout ça pour dire que l'Église, elle est la caisse de résonance, en pire, de ce qui se passe dans la société. Et pourquoi c'est pire ? Parce qu'il y a une justification théologique qui est faite. Et donc ça, ça sacralise les inégalités. Voilà, je...
Merci, merci beaucoup. Je vais demander maintenant à Lucie de nous parler justement de comment sortir, alors des évidences du silence, on l'a déjà effleuré, mais comment sortir de ce côté inaudible de l'expérience des femmes. Pourquoi est-ce qu'elle est inaudible? Là, je parle, restons dans l'Église, hein, puisque c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Pourquoi dans l'Église, l'expérience des femmes est-elle inaudible? Et on a vu comment Mathilde, avec des femmes et un dieu, essayait de la faire émerger. Mais vous, comment vous vous y prenez ?
Je pense qu'une des premières raisons pour laquelle l'expérience des femmes est inaudible, c'est que leur expérience, leur regard sur l'Évangile notamment, ne peuvent pas être entendus. Ça, c'est-à-dire que nos communautés chrétiennes sont quand même réunies, alors différemment bien sûr chez les catholiques, mais quand même autour de la liturgie. Et le fait que les femmes ne puissent pas donner l'homélie, par exemple, en tout cas nous au sein de My Goddess, on trouve que c'est un appauvrissement de la vie spirituelle pour tous. Par exemple, on entendra rarement à Noël une femme. Vous m'entendez ?
L'homélie, c'est ça, je n'avais pas
entendu. L'homélie, oui. On entend rarement à Noël, dans l'homélie, la question de l'accouchement. C'est quelque chose qui est complètement absent. Le collectif féministe L'Autre Parole, qui est une collective de féministes québécoises, disent que le moment de l'accouchement, c'est un des rares moments où une femme peut dire, enfin, une personne humaine peut dire, ceci est mon corps, ceci est mon sang livré pour la vie. Ben, c'est sujet. Qui livrent leur corps et leur sang pour la vie, on n'entend pas parler de leur corps et on n'entend pas parler de leur expérience de vie. Et c'est vraiment terrible parce que du coup, ça veut dire qu'on entend, je suis navrée, mais on entend tous collectivement la même soupe, souvent. Hein. Alors il y a des très belles homélies, mais on entend un peu les mêmes mots usités, renouvelés, enfin voilà, en tout cas constamment un peu réutilisés. On entend rarement, au moment de la Pentecôte, les femmes qui quand même portent les communautés, portent les paroisses, sont majoritaires dans l'assemblée, sont les petites mains invisibles de la vie liturgique, paroissiale et ecclésiale de manière large, parler de ce que c'est que faire communauté. On entend rarement au moment de Pâques des expériences réellement corporelles, incarnées de la mort et de la résurrection. Il y a un ensemble d'expériences qui sont absentes des moments liturgiques qu'on partage en paroisse. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a créé notre premier projet au sein de My Goddess, c'était de créer Bonne Nouvelle, la parole inclusive du dimanche, qui est un podcast qui donne la... Tu peux aller prendre mon chat ? Anne, est-ce que je peux te laisser présenter Bonne Nouvelle et je reviens dans une seconde ?
Donc, Bonne Nouvelle, c'est le premier
podcast qu'on a créé en 2019, mais qui a commencé à sortir en 2020, et donc qui est un podcast d'homélie qui commence à partir du premier dimanche de l'Avent et qui finit à Pâques.
Ah non, on ne t'entend plus pendant quelques... Là, on ne t'entend plus du tout.
Je n'ai rien fait et mon son fonctionne, mais moi, je ne vous vois plus.
Alors, c'est reparti. C'est reparti.
C'est reparti.
Oui.
C'est bon ?
Oui.
OK. Mais je ne vous vois plus, Dominique, si on peut...
Alors,
si
on est en train de régler la question. Non, on est en train de régler l'image, mais toi, tu peux parler.
Ouais. OK. Donc, simplement pour prendre le relais de Lucie avant qu'elle revienne. Donc, elle expliquait que notre premier podcast, Bonne Nouvelle, qui est sorti le premier en 2020, est un podcast d'homélie inclusive, c'est-à-dire qu'on donne la parole à toutes les personnes qui ne sont pas autorisées par le droit canon à commenter les textes, de la messe du dimanche. Donc, du premier dimanche de l'Avent jusqu'à Pâques, c'est une femme, ça peut être une personne LGBT, ça peut être un homme, ça peut être une personne précarisée, bref, toutes les personnes interprétées par les Écritures, et du coup, qui nous livrent en fait cette parole de foi tous les dimanches et les jours de fête entre le premier dimanche de l'Avent et Pâques. Donc ça, c'était notre premier projet. Et c'est ce que disait Lucie, c'était notre idée, c'était d'essayer de participer à ce renouvellement des communautés chrétiennes, non pas en attaquant frontalement l'institution, parce qu'il y a déjà d'autres associations qui le font très bien et qui aussi s'épuisent dedans depuis des décennies. Et nous, ce qu'on s'était dit, on a envie en fait que notre engagement il puisse nous nourrir au quotidien aussi spirituellement. On a envie d'apporter ça et qu'il va falloir institutionnel que les clercs acceptent de changer le droit canon, mais c'est à nous de proposer quelque chose de nouveau et que c'est par cette irrigation d'initiatives nouvelles que le visage de l'Église va se transformer en fait. Donc c'est le pari qu'on a fait et pour le moment, voilà, ça va être la cinquième saison, donc je ne vais pas dire que c'est du long terme encore, mais a priori, l'idée c'est que ça puisse se pérenniser et surtout que ça puisse nourrir d'autres personnes, mettre en lien d'autres personnes qui se sentent, qui ont du mal à aller à l'église parce qu'elles ont l'impression d'être exposées à une violence patriarcale constante. Même sans que le prêtre ne s'exprime, hein, simplement par la manière dont l'office a lieu. Voilà. Comme Lucie n'est pas revenue, je ne sais pas si vous voulez que je...
Peut-être Monique veut bien réagir à ce qui vient d'être dit, enfin donner un apport, et puis on redonnera la parole à Lucie quand elle reviendra, par exemple, et on enchaînera sur d'autres thèmes.
Je comprends l'attitude aussi bien de Mathilde, de Anne et de Lucie, et je pense qu'elles ont raison. Il faut faire bouger les choses sur le terrain, parce que c'est pas par le haut que ça va bouger, et quand ça bougera, ça mettra encore longtemps. Je voulais juste apporter une précision. Si la parole des femmes est inaudible, c'est que depuis un millénaire, on considère que les laïcs sont incompétents en matière de foi. Il y a une réforme grégorienne qui s'est faite vers le 11e siècle, par là, 12e, où l'Église a finalement... à l'époque, c'était certainement avec des bonnes intentions pour mettre un peu d'ordre, mais à ce moment-là, on a établi les 7 sacrements. Et ça a créé 2 séparations. La séparation entre ceux qui acceptent les sacrements et ceux qui ne les acceptent pas, c'est-à-dire les juifs et les païens. Chrétiens d'un côté, juifs païens de l'autre. Et à l'intérieur de l'Église, ça fait la séparation entre ceux qui célèbrent et administrent les sacrements, donc les clercs, et ceux qui les reçoivent. Et c'est un historien laïque, Patrick Boucheron, qui enseigne au Collège de France, qui à un moment donné a attiré mon attention sur cette séparation lui qui est historien médiéviste, qui fait un cours sur l'histoire des pouvoirs justement au Moyen-Âge, il montre comment ce que l'Église a mis en place à ce moment-là a structuré toute la société et nous influence encore aujourd'hui. Et l'exemple concret pour l'illustrer, quand j'étais directrice du service famille et société, un jour, enfin, souvent les médias contactaient la conférence des évêques pour avoir des intervenants. Généralement, pas de problème pour trouver quelqu'un. Là, il y avait une émission télé sur les abus sexuels, il y avait un peu moins de volontaires. Comme j'avais travaillé sur la question, on m'a dit, mais Monique, tu n'as qu'à y aller. Sauf c'est la télévision qui n'a pas voulu, parce qu'une femme ne représente pas l'Église. Donc c'est ancré dans les mentalités, même au moment. Hein, et aujourd'hui, dans Promesse d'Église, dont j'essaierai de vous parler demain, les évêques ont dit à Promesse d'Église, ça sera bien que dans la presse, on entende de temps en temps d'autres opinions que les nôtres. Ben, il faudrait qu'ils balayent un peu devant leur porte, parce que l'institution est ainsi faite que seuls ceux qui ont reçu l'ordination, leur parole fait autorité. Et ça, c'est ancré dans les mentalités, y compris chez les plus athées ou les plus laïcs. Donc, il faut en fait continuer sur le terrain à faire ce qu'on peut.
Donc, Lucie n'est toujours pas revenue, mais est-ce qu'on peut passer à la question de la représentation du divin ? Donc, les hommes au pouvoir...
Oui, est-ce que...
Oui, tu as encore des choses à dire sur la question qui nous...
Alors, je veux juste, mais oui. Ça va être très rapide, mais je veux juste souligner, parce qu'on ne le sait pas forcément, qu'en plus du fait que ce que vient de raconter Monique, qui est tout à fait juste, c'est qu'à la fois, il y a vraiment cette conception que les laïcs ne sont pas capables, sont incapables en fait, et que ça a un petit peu changé au moment de Vatican II, lorsque l'Église a compris que maintenant, en fait, il allait falloir reconnaître la démocratie comme un régime politique a priori le moins pire, et qu'ils ont compris que avec le système aussi de que la démocratie libérale ne fonctionne que parce qu'il y a une séparation des Églises et des États, cela impliquait en fait une réalisation par l'Église qu'elle ne pourrait plus avoir la même prégnance dans la manière de structurer la société qu'elle ne pouvait le faire par le passé. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à donner plus de responsabilités aux laïcs, en se disant, mais en fait, le bras droit, la manière dont l'Église va encore pouvoir influencer la société, ce sera par l'engagement des laïcs en politique, notamment. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir des textes produits par le magistère pour encourager les chrétiens laïcs à s'engager politiquement. C'est aussi comme ça que la démocratie chrétienne a émergé. Et donc, il y a toujours cette idée quand même que comment est-ce que l'Église peut continuer à perpétuer son pouvoir de structuration de la société, de la vie des gens, de leur intimité, et que maintenant, voyant qu'elle ne peut plus le faire à l'échelle de la société, elle se concentre sur des discours qui sont liés à l'intimité, à la sexualité, et donc ça touche directement les femmes et les personnes LGBT. Et les théologiennes féministes et queer ont été censurées par le Vatican. Ils ont, vraiment, ces productions qui ont été réalisées, elles n'ont été faites que dans des facultés de théologie qui étaient plus de l'Église, ont obligé les personnes qui recherchaient dessus à arrêter leurs recherches. Il y a une censure vraiment, une politique de censure explicite qui a été réalisée au XXe siècle par le Vatican. Donc je voulais juste rajouter cet élément pour qu'on ait une sorte de la situation.
Est-ce que ces recherches...
Est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais dire qui est en lien avec ça ?
Est-ce que ces recherches reprennent ? Je veux dire, est-ce qu'il y a une censure pendant un moment et il y a une libéralisation ou pas ? Ou est-ce qu'on en est toujours au même point ? Question audace, liberté théologique sur ces questions de genre ?
Alors dans la recherche, ça continue à être vraiment produit dans les institutions publiques, mais le fait de s'intéresser aux théologies féministes et pas encore queer en tout cas dans le monde francophone, ça commence, enfin, là je prends un exemple, c'est un peu l'étalon parce que c'est là où j'ai commencé mes études de théologie, mais au Centre Sèvres, je crois que c'était cette année ou c'est l'année qui vient où il y aura le premier cours de théologie féministe. Voilà. Donc c'est la première fois en 2022 ou 2023 qu'on va enseigner ça. Bon, évidemment, c'est une option. Donc c'est une théologie à chaque fois, et c'était une des critiques qui était faite, c'est subjectif. C'est juste l'expérience des femmes, c'est contextuel, sans réaliser que la théologie dite classique, elle a été faite par des hommes, elle est aussi subjective, entre guillemets, si on veut dire, que celle faite par des femmes. Voilà, mais cette critique-là, elle prend du temps à être intégrée.
Si je peux ajouter, ouais, c'est vrai qu'en France...
Je trouve ça hyper important ce que tu viens de dire, Anne. Ouais.
Vas-y, Lucie.
Vas-y, Lucie.
Oui. Ben, en fait, je trouve que Anne, dans ses deux interventions, dans la deuxième, a mis l'accent sur le processus de sécularisation qui s'est accru depuis les années 70 et qui était déjà en cours avant, et sur l'importance que l'Église a choisi de donner à la vie intime, sexuelle et au rôle de genre pour quelque part garder du contrôle. Et ce que je voudrais dire, je ne sais pas si tu l'as mis en valeur, Anne, du coup, c'est que elle est une actrice fondamentale dans le fait de donner un cadre au débat public qui consiste à dire on est dans un conflit civilisationnel, les problèmes aujourd'hui qui nous fragilisent, il y a une inquiétude autour des questions de genre, des questions LGBTI, et ce ne sont pas des problématiques économiques, des problématiques raciales. Tout à l'heure, on a parlé des expériences qui nous ont un peu ouvertes au féminisme. Moi, je pense toutes, dans My Goddess, on a été très, très marquées par les mobilisations de 2012-2013 contre le mariage pour tous. Et moi, j'ai le souvenir d'être allée à un mariage dans la famille de mon mari, qui vient d'une famille française avec une branche un peu plus aristocratique. Et c'était juste après l'adoption de la loi permettant l'accès au mariage et l'adoption en couple de même sexe. Et pendant toute la... Et donc sur le chemin du mariage, j'étais en covoiturage avec une jeune fille avec qui j'avais choisi de discuter. Et je lui demandais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle me répondait, je suis cadre chez Etam, donc dans une grande enseigne de vêtements. Je lui demandais si c'était intéressant. Elle me dit, oui, je travaille aux marges, c'est-à-dire à la différence entre ce que le produit coûte à produire et ce qu'il nous rapporte. Je lui dis, est-ce que ça te plaît? Elle me dit, oui, c'est passionnant, on est très en lien avec l'activité. Avec l'actualité, quand les ouvrières bengalaises sont en grève, on délocalise au Pakistan. Wow. Ou on délocalise à un autre endroit. Ensuite, on est allé à la messe donc, de ce mariage. Le prêtre a parlé du mariage pour tous. On a prié pour la France qui allait très mal. Donc tout le monde parle beaucoup, beaucoup du mariage pour tous. On sort, moi je sors très énervée de la messe en disant « mais je ne comprends pas, c'est un mariage, c'est difficile un mariage, on ne prie pas pour le couple ». Pour le porter dans cet amour qui va vivre. Et la même femme se tourne vers moi, elle me dit quand même, les valeurs, c'est important dans la vie. Et vraiment, face à un choix de quelles valeurs on veut porter. Et il y a quelque chose de cette dissonance et de ces paradoxes. La question a été posée tout à l'heure de comment sortir du silence et des évidences. Je pense qu'une manière de sortir du silence et des évidences, c'est d'habiter les paradoxes que nous font vivre notre identité catholique. D'habiter ces moments où on se dit, mais quelque chose ne va pas à l'heure. D'aller marcher contre des familles homoparentales et ensuite de travailler à la néolibéralisation. Et ce ne sont pas des dissonances qui peuvent être réglées gentiment en lisant l'audace aussi, en faisant du jardinage. On est face à un conflit qui est quand même un conflit important. Et l'Église, en axant les choses sur les questions de genre, participe au détriment des femmes et au détriment des minorités sexuelles et au détriment de toute la société, à un monde dans lequel on s'inquiète d'une perte de l'identité et des revendications d'égalité, alors que le vivant est en train d'être détruit et que les vies humaines sont en train d'être reléguées au deuxième plan économiquement. Et c'est pour ça que je trouve que les questions de genre sont des questions de pouvoir fondamentales et qu'elles nous concernent toutes et qu'elles concernent des revendications de justice plus larges. Et pour ça, je pense qu'il faut du temps et il faut se laisser habiter dans les paradoxes que nous font vivre le monde catholique. C'est un chemin qui est... je pense, très intime, en même temps qu'il est politique et qu'il est bouleversant.
Lucie et vous tous, on va arrêter pendant... Ne quittez pas la connexion. Christian, qui s'occupe de la technique là, pour cette conférence un peu compliquée, a besoin de 3 minutes. Donc, je vous propose de méditer sur cette proposition d'habiter nos paradoxes, hein, d'habiter les paradoxes qui nous font vivre cette, ce paradoxe entre ces valeurs peut-être voilà, qui ne sont pas les priorités du monde actuel, alors qu'elles sont, elles se situent ailleurs. Christian, prends ton temps. Hein, on a commencé un peu en retard et on a eu des problèmes techniques qui nous ont un peu retardés. Donc je propose qu'on prenne un bon quart d'heure de plus pour aller au bout de cet échange qu'on avait bien préparé. On a encore 2-3 questions à explorer. Ensuite on ira prendre le café. Donc, oui, à tout le monde, je pense. Alors, Anne d'abord, voilà. Oui, donc je fais un essai. Ça y est, tu as déjà repris la main ? Alors, Lucie, est-ce que tu peux parler, dire deux mots, juste si tu entends ? On t'entend, mais c'est juste une question de niveau, de volume. Est-ce qu'il faut qu'elle enlève ses écouteurs ? C'est pas un problème. Ah, elle a ses écouteurs. Lucie, on t'entend plus du tout, en fait. Attends. On n'entend plus. On règle un autre problème. Oui, donc on va prendre plus de temps. J'en profite pour vous dire qu'à la sortie tout à l'heure, dans un quart d'heure, il y aura 3 livres en vente. Donc le livre de Lucie, dont Lucie et Anne ont été les co-directrices, Dieu.e. Donc, alors attendez, je vous redonne le Dieu.e. Vous allez le voir, hein, ça saute aux yeux. Et puis ensuite, il y a le livre de Mathilde qui vient juste de sortir, donc qui sera en vente aussi juste à la sortie. Mon parcours d'avant au féminin, vers un Noël sobre et joyeux, parce qu'on verra aussi que le féminisme, c'est aussi une forme d'écologie. Hein. L'écoféminisme, c'est quelque chose qui est important aussi dans la vie de Mathilde et sûrement d'autres d'entre nous. Et puis, il y aura aussi le livre de Valérie Le Chevalier qui interviendra cet après-midi. Donc, on commencera à le vendre dès la sortie, parce qu'après, il y aura plus qu'une ouverture de la librairie de 13h30 à 15h. Donc on sait bien que c'est plus facile d'acheter un livre que, tout de suite quand on est là que de revenir à la librairie. Et alors, je veux juste vous dire que, vous savez, les intervenants à la sortie de leur conférence, ils ont vendu tous leurs livres. Alors sachez que le livre de Valérie, c'est pareil, quand vous allez sortir de sa conférence tout à l'heure, vous aurez envie d'acheter son livre. Alors prévoyez le coup, achetez-le tout de suite, parce que de toute façon, il n'y en aura pas assez, donc... Voilà, et donc achetez-le tout de suite, c'est un conseil que je vous donne parce que ben, le titre c'est Ces catholiques qui ne pratiquent pas, ces fidèles qui n'ont pas. Voilà. Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez, quelle place dans l'Église ?
Voilà, et ces fidèles qui ne pratiquent pas assez, quelle place dans l'Église ?
Ouais, mais c'est dommage parce que moi, ça a l'air vachement.
Il se passe des choses.
On n'entend pas. On n'entend pas.
Non, elle n'entend plus.
Surtout que c'est les moments de récap, généralement, il y a un peu...
Oui. Ah, oui, c'est bon.
Ça y est,
non
elles entendent.
Oui, c'est bon.
Voilà.
Allô, allô, est-ce que vous m'entendez ? Superbe.
On va avancer dans notre trame, hein, je vous en prie. On va avancer dans notre trame et on avait voulu... On voulait... Oui, mais si tout... Je peux pas prendre... Enfin, on est obligé d'avancer, là. Lucie, peut-être tu la diras après, hein, d'accord. Alors, on avance sur notre trame et on voulait parler de la représentation du divin, ces images qui ne valorisent, enfin, oui, toutes ces paroles et ces images qui ne valorisent qu'un dieu masculin. Alors, je vais donner la parole peut-être à Mathilde d'abord, hein, si tu veux. Ou Monique, tu voulais parler ? Anne, oui, mais Anne, elle va parler. Alors, il faut que ce soit moi qui répartisse la parole, sinon ça va passer, hein, on va y arriver. Mais Anne va parler, mais je passe la parole à Mathilde qui n'a pas encore beaucoup parlé, je trouve. Voilà.
Oui, alors j'essaye de rassembler mes idées, pardon. Je ne pense pas dire quelque chose de théologiquement très subversif si je vous dis que Dieu est au-delà du genre et qu'il est à la fois masculin et féminin, puisque dans le récit de la création, il crée l'homme et la femme à son image, ce qui veut bien dire que il y a quelque chose de masculin et quelque chose de féminin, et puis sans doute aussi quelque chose qui va au-delà du genre. Pour le représenter fidèlement, il semble qu'il faudrait mettre en valeur des images à la fois masculines et féminines, tout en étant entendu, bien sûr, qu'on ne peut pas faire le tour du divin par des images. Qu'elles soient picturales ou qu'elles soient mentales. Et pourtant, on a choisi de privilégier une image de Dieu masculine. Quand on entend dans la liturgie, enfin, quand moi, je trouve ça très frappant dans la liturgie. On entend beaucoup parler de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et on voit pas beaucoup d'images féminines de Dieu. Alors c'est vrai, Monique me l'a fait remarquer, le Christ a appelé Dieu son Père, et ça, bon, c'est quelque chose d'indépassable. Mais des images féminines de Dieu, il y en a quand même, hein, dans l'Ancien Testament notamment, où Dieu est souvent dépeint, oui, comme un père ou comme un époux, avec son épouse infidèle, Israël, et puis l'Église maintenant, nous, chacun d'entre nous. Et puis, il y a quand même aussi, dans Isaïe notamment, de très beaux passages sur Dieu qui est une mère, qui n'oublie pas ses enfants, qui les a tissés dès les entrailles de leur mère, qui a chacun d'entre nous gravé sur la paume de ses mains. Puis il y a la sagesse aussi, qui est une figure divine dont on n'entend pas beaucoup parler dans les prières. Et ben nous, en tout cas, à Des Femmes et un Dieu, on pense que c'est très important de remettre à l'honneur ce versant féminin de Dieu pour les femmes comme pour les hommes. Hein. Et nous, dans nos retraites, souvent on propose des ateliers d'écriture pour s'adresser à Dieu au féminin. Alors on voit que tout de suite émerge quand même la tentation, enfin l'envie de s'adresser à la Vierge Marie, qui, je le rappelle, ne fait pas partie de la Trinité. Hein. Ça déplace pas mal de s'adresser à Dieu comme à une mère, ou alors comme à une sœur, ou alors comme à une amie. Et nous, on essaye de promouvoir cette façon de prier. Il y a une très belle prière, je n'ai pas pensé qu'on pouvait la projeter, je suis désolée, d'une sœur américaine qui a réécrit le Notre Père en Notre Mère. Et il y a quelque chose, c'est aussi, quand on parle du féminin, de Dieu, on parle aussi d'un Dieu qui est beaucoup plus horizontal, quelque part, beaucoup plus... Parce que c'est tout ce qui est associé avec le féminin, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose d'enveloppant, c'est pas cette verticalité du Dieu qui est père et qui, parfois... est présenté comme quelqu'un qui nous surveille, qui va nous punir, qui est complètement extérieur à nous. Je trouve que ce qui est beau dans la conception de Dieu au féminin, c'est que ça met en valeur cette tendresse, et puis cette idée que Dieu, c'est à la fois le tout autre dans une relation de verticalité, et puis c'est à la fois celui qui est plus nous-mêmes que nous-mêmes. Celui qui se scelle, qui se rend présente quand on est dans une relation d'amitié, qu'on sent vibrer quand on échange entre pères, P-A-I-R-S. ou ES. ES. Et ça, ben, je trouve que c'est quelque chose qui nous apporte, qui nous apporte à toutes et à tous.
Merci. On peut enchaîner ? Oui, tu as fini. Donc je me tourne vers Anne. Justement, Anne, tu as travaillé sur les théologiennes qui ont travaillé elles-mêmes sur les représentations du divin. Donc je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as découvert ? Qu'est-ce que tu as à nous dire ?
Y a deux points qu'on met en valeur ces théologiennes féministes. Donc le premier est lié à ce que vient de présenter Mathilde de manière très juste, c'est-à-dire que en fait, il y a plein de figures féminines de Dieu, de représentations divines de Dieu au féminin dans la Bible et les évangiles. Donc elles ont excavé à la fois des figures de femmes très importantes comme Tamar, Judith, etc. Donc elles ont à la fois réhabilité ces personnages féminins de la Bible qui sont parfois des guerrières en fait. On peut aussi chercher dans les évangiles des représentations où Jésus en fait prend beaucoup de paraboles dans lesquelles Dieu est présenté comme une mère. Donc c'est une mère qui se lève avant l'aube pour faire le pain. C'est une femme qui balaie sa maison pour retrouver la pièce égarée. C'est une poule qui couve ses petits poussins. Donc Jésus, d'une certaine manière, en utilisant ces images, il rend visibles les femmes et les activités auxquelles elles ont été assignées dans la société dans laquelle il a vécu. Elles font aussi tout un travail sur les mots. Donc, par exemple, le fait que les premiers mots de la Genèse, on est en présence du mot hébreu « ruha », donc qu'on traduit par « esprit », mais le mot hébreu « ruha », donc qui est « souffle »,« vent », qu'on traduit souvent par « esprit », il est du genre féminin. Et le participe planant, donc la terre était déserte et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, donc Genèse 1, 2. Ce participe planant présente en hébreu la forme du féminin, merarefet, et ainsi placé au début des Écritures, le souffle de l'Esprit, écrit au féminin, c'est lui qui prend l'initiative de l'acte créateur. C'est quelque chose qu'on met relativement peu en valeur d'habitude. De même, Mathilde parlait de la Shekinah, donc qui est la sagesse de Dieu incarnée, qui est en fait aussi au féminin. Elles vont excaver en fait ces figures féminines de Dieu, mais elles vont aussi montrer comment est-ce que des traductions ont été biaisées. Elles ont été faites en sorte de masquer des figures féminines. Utilisées pour parler du divin. Et notamment, une des théologiennes féministes très importantes, Elisabeth Schussler-Fiorenza, elle interroge les présupposés androcentriques des auteurs bibliques et des interprètes successifs. Par exemple, elle montre que dans la traduction d'André Chouraki de la Bible, l'expression qui est assez neutre, « Dieu saisit aux entrailles », c'est l'expression qui a été choisie pour traduire une expression qui en réalité est « Dieu matriciel », parce que le terme hébreu « rehem », il signifie « utérus ». Voilà, et donc on a choisi un terme extrêmement, une expression très neutre, Dieu saisit aux entrailles, alors qu'en réalité il s'agit de l'utérus de la femme. D'autres traductions ont souvent éludé le sens des mots ou des expressions parce qu'elles ne conviennent pas à une représentation patriarcale des traducteurs. Donc une autre théologienne, Virginia Mollenkott, elle découvre ainsi que El Shaddai, qui est le dieu des armées, signifierait en fait le dieu des saints, saint S-E-I-N-S. Donc il y a une manière en fait de traduire qui a été extrêmement biaisée et que là elle montre comment est-ce que ces traducteurs et ces interprètes ont projeté en fait sur le texte leur propre biais androcentrique. Un dernier exemple que je pourrais donner, c'est que la manière dont on a utilisé la Bible pour continuer à perpétuer des stéréotypes sur la femme, c'est un autre type d'occultation, c'est le lectionnaire qu'utilise l'Église pour la messe du dimanche, tronque en partie les psaumes que l'on chante. Donc par exemple, à la messe, il y a la lecture du proverbe 31 sur la femme idéale, tous les versets qui montre que la femme est une femme d'affaires, qui cultive sa vigne, qui avec l'argent de la vigne va acheter de quoi permettre d'accroître son commerce. Celle qui pense au futur, qui anticipe, qui investit, qui mène en fait la famille. Tous ces versets ont été supprimés et on a gardé ceux où la femme se lève plus tôt le matin pour nourrir la maisonnée, celle qui file la laine et coud les vêtements pour ses fils et son mari, qui la trouve extraordinaire et qui la loue pour sa beauté et sa sagesse. Voilà. Et donc, le lectionnaire de la messe ampute des versets qui présentent l'image d'une femme forte et entreprenante pour ne garder que l'image d'une femme au foyer qui veille sur le bien-être de son mari et de ses enfants. Et peut-être un dernier élément qui est moins lié au texte en tant que tel, mais plus une réflexion philosophique, c'est que les recherches de cette théologienne, elles ont des implications sur l'organisation de l'Église et sur sa représentation qu'elle a d'elle-même. Donc, par exemple, elles vont critiquer le fait qu'on ait transmis une compréhension littéraliste de l'analogie entre Dieu et Père, dont on parlait tout à l'heure. Parce que ce qu'elles veulent montrer, c'est que, certes, Jésus utilise le terme de Père quand il prie Dieu, mais le langage dit plutôt une qualité de relation plutôt qu'une description du divin. D'où le fait aussi qu'il y a tant de représentations féminines de Dieu dans la Bible et que Jésus utilise énormément de métaphores de femmes pour parler de Dieu. Donc les hommes ne sont pas les seuls à pouvoir représenter le Christ. Et d'ailleurs, ce que disait notamment Lucie au début, lorsqu'elle parlait du fait que peut-être que les femmes représentent peut-être plus l'acte créateur lors de l'accouchement, les femmes finalement présentent plus le quotidien, dans le quotidien, l'engagement pour les personnes les plus vulnérables, pour la justice et pour le soin, et que ça c'est une image plutôt de l'acte de Dieu pour l'humanité.
Merci. Donc, je passe la parole à Monique hein, qui voudrait dire quelque chose, apporter un complément.
En complément de toutes les images en fait que véhicule la Bible et pour lesquelles les traducteurs ou les interprètes ont souvent fait des choix pas en faveur des femmes, il y a aussi toutes les images, parce que pendant des siècles, on n'a pas représenté Dieu. Les Juifs ne représentaient Dieu et les chrétiens dans les premiers siècles n'ont pas représenté Dieu. Puis après, on a commencé à autoriser les représentations du Christ. Après tout, il était incarné de la Vierge Marie, puisque c'était une femme réelle. Mais jusqu'au 9e siècle, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas eu de représentation du Dieu Père. Et quand on a commencé à la peindre de comme un vieil homme avec une barbe blanche ou grise, etc., c'est quand même des images qui se sont figées et qui ont, à mon avis, fait du tort. Victor Hugo s'est déjà écrié de son temps en disant qu'il n'en voulait pas de ce Dieu avec une barbe là, sévère, etc. Donc c'est aussi ces images-là, je suis tout à fait d'accord avec Anne, hein, Jésus appelle Dieu son Père, mais c'est une relation qui est, et ce n'est pas, Dieu n'est pas Père à la façon dont un homme est Père. Tout juste, un homme peut essayer de s'inspirer de Dieu, comme nous, en tant que femmes, on s'inspire de Dieu pour assumer la maternité. Mais les images qui existent ont aussi vraiment conforté cette idée d'un Dieu masculin.
Alors, il est 11h, bientôt moins 10. Ce que je propose, c'est qu'on fasse la pause maintenant, pendant une demi-heure, Anne et Lucie. On va vous laisser vous faire vos petites affaires. Et on revient à 11h15. Et on traitera d'abord, avant de prendre vos questions, de cette fameuse question de l'écoféminisme et du lien entre féminisme et toutes ces questions essentielles qui aujourd'hui conditionnent notre avenir, qui sont les questions d'écologie. Et je donnerai la parole à Lucie à ce moment-là, sans doute elle a beaucoup de choses à dire, et puis à Mathilde. Hein. Écoféminisme, féminisme. Merci. Merci. Donc rendez-vous à 11h15, s'il vous plaît.
C'est le jeu. Voilà. Et puis, ça ouvre un tout un champ, là.